Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin, invité politique, est Maïna Jérôme, coordinatrice régionale pour la Bretagne des Jeunes avec Macron. Elle est venue en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors on va parler de politique ce matin avec, j'allais dire, une actualité assez dense et en particulier avec ce projet de loi de finances 2025, projet qui est déjà dénoncé. On a vu les propos de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une calamité, hein, c'est le terme qu'il a employé, et qui déplore les 4000 postes en moins dans l'éducation. Mais voilà, il faut faire des économies. Comment faire des économies et continuer à faire avancer le pays? C'est ça un petit peu la question aussi.
Bah, c'est sûr que là, il y a des économies à faire parce qu'avant, on l'a vu, il y a eu des crises et on a eu raison, pour moi, de privilégier l'économie française pendant le Covid, de privilégier le pouvoir d'achat des Français. Donc en fait, les économies, elles ne pouvaient pas être faites avant. Enfin, on le sait, hein. On ne pouvait pas faire d'économies avant, c'était privilégier la vie des Français. Mais aujourd'hui, il y a des économies qui doivent être faites. À hauteur, est-ce qu'il faut en faire autant que ce qui a été annoncé? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des étapes avant. C'est sûr que quand on veut faire une hausse des impôts, bah, qui ça va toucher? Peut-être que ça va toucher les ménages les plus aisés. Et peut-être que aussi, bah, comme on a vu le gel des retraites qui va être retardé, bah, ça touche pas que les ménages aisés. Donc voilà. Donc à voir, moi j'attends de savoir, il est passé en Conseil des ministres hier, j'attends de pouvoir le lire parce que je l'ai vu passer et j'ai reçu le projet de loi de finances hier soir, mais j'avoue que les 300 pages, je ne les ai pas épluchées encore. Mais voilà, oui, donc il y a des économies à faire. Après, la suppression de postes, notamment dans les écoles primaires, on a vu, hein, Emmanuel Macron, il a bien voulu faire dédoubler les classes, ce qui est très bien, mais avec les suppressions de postes, j'attends de voir sur quelle classe ça va impacter.
On sent qu'il y a une volonté de la part de Michel Barnier, le Premier ministre, de procéder à une rupture par rapport à la politique conduite jusqu'à présent par les différents gouvernements et par le président de la République. Est-ce que c'est une bonne chose de tourner la page? Les Français ont en quelque sorte adressé un message au président de la République, ou est-ce qu'il fallait le faire plus en douceur?
C'est que mon avis, j'engage pas les jeunes avec Macron, mais je pense qu'il y avait plus en douceur à faire. Après, faut pas faire d'amalgame sur le fait que Macron n'était pas le président dépensier et Michel Barnier ne sera pas le Premier ministre économiste. Mais parce que à côté de ça, on a aussi mené des réformes, par exemple pour le plein emploi, qui est aussi une forme d'économie, puisque l'économie passe aussi par le travail, et c'est ce que Emmanuel Macron a toujours voulu porter. Hein, c'est plus on aura de gens en emploi, plus l'économie aussi sera un peu relevée. Donc non, ça devait se faire plus en douceur, je pense. Ça n'engage que moi, comme encore une fois. Mais des économies doivent être faites, ça c'est évident.
On a entendu plusieurs grandes voix de la Macronie s'exprimer autour de ce qui a déjà filtré avant même que le projet de loi de finances soit proposé au Conseil des ministres pour dénoncer une forme de brutalité en termes de fiscalité. Alors on sait que le mot fiscalité en France, ça passe pas bien. Est-ce que on peut imaginer une forme de rupture entre ce qui était jadis la majorité présidentielle et le nouveau gouvernement?
Bah, je pense qu'en effet, il y a des députés qui sont déjà exprimés à ce sujet et qui ne voteront pas pour la hausse des impôts, par exemple. Et ce que je peux comprendre, et je respecte chacun des votes. Et après, c'est encore une fois, il faut éplucher, je pense, le projet de loi et puis de savoir un petit peu ce qui est. Enfin, de comprendre aussi quelle population ça va impacter. Parce qu'on ne peut pas voter quelque chose qui va impacter les populations qui ont du mal encore aujourd'hui et des économies, encore une fois, ça se fait. Mais sur le dos de qui, voilà. Et encore, les collectivités vont le payer aussi, hein, parce que quand on fait des économies, ça impacte les ménages, mais aussi les collectivités. Après, il a été annoncé que ce serait que les collectivités les plus aisées. Voilà, encore une fois, on attend de voir parce qu'il y a le vote et puis il y a aussi l'application après.
Voilà, puis le débat à l'Assemblée hein, qui risque d'être assez musclé, si vous me permettez le terme. Justement, les collectivités aujourd'hui, elles dénoncent un projet de loi qui risque de les impacter fortement. On a entendu le président du département d'Ille-et-Vilaine, mais aussi le président du département des Côtes-d'Armor, Christian Couaille, ou encore celui de Loire-Atlantique, dans une tribune commune, dénoncer des difficultés pour financer les départements, départements qui ont du mal avec beaucoup de demandes, beaucoup d'attributions, beaucoup de gestion à faire de lignes politiques, mais et de lignes budgétaires qui ne suivent pas. En gros, les départements doivent faire plus avec l'État qui ne leur donne pas plus. Est-ce que là aussi, il risque d'avoir un déséquilibre et une perte de confiance des élus du terrain par rapport au gouvernement ?
Ah ben, on le voit, en plus, la politique actuelle, de toute façon, a poussé, on va dire, beaucoup d'élus à se remettre en question sur leur engagement. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les législatives, on l'a vu plus que jamais, les élus, ils ont besoin de s'engager pour montrer que voilà, faut pas déserter le monde politique. Mais je comprends totalement et je respecte les gens qui sont un petit peu dégoûtés, entre guillemets, de la politique avec ce qui s'est passé. Mais les collectivités doivent endosser plus. C'est pour ça que le projet de loi de finances, encore une fois, je l'ai pas lu, mais je pense que le projet de loi de finances, il va falloir trouver un équilibre aussi entre favoriser les ménages, mais aussi ne pas impacter trop les collectivités territoriales, parce qu'elles en ont vraiment besoin aussi. C'est pas facile pour les ménages, mais c'est pas facile non plus pour les collectivités. Donc si ça impacte que les collectivités les plus aisées, les plus riches, on va dire, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, voilà, à trouver l'équilibre et avoir aussi des discussions qui en tireront, parce que voilà, ça peut changer encore un petit peu avec toutes les discussions qui vont passer en commission finance.
L'idée, c'est de savoir où l'on met le curseur, finalement. Qu'est-ce qu'une collectivité riche voilà. Ouais. Là aussi, le débat va sans doute clarifier beaucoup de choses. Je le disais en commençant, Maïna Jérôme, vous êtes coordinatrice régionale des jeunes avec Macron. Les jeunes, aujourd'hui, sont un petit peu au centre de beaucoup de choses, s'inquiètent de beaucoup de choses, s'inquiètent de leur avenir, s'inquiètent pour le climat, s'inquiètent aussi pour bien ce qu'ils vont devenir en termes d'éducation, comment continuer à suivre des cursus si on enlève les moyens, ou si, à côté de ça, les jeunes qui suivent ces cursus, les étudiants par exemple, se retrouvent bloqués parce qu'ils ne peuvent pas financer leurs études, parce qu'ils ne peuvent pas se loger, se nourrir. Parfois, on le voit, c'est assez prégnant dans certaines universités, c'est le cas à Rennes par exemple. Est-ce que là aussi, vous tirez la sonnette d'alarme en disant attention, des économies, oui, mais pas n'importe où, et peut-être pas sur l'éducation et peut-être pas sur la jeunesse?
Ah oui, bien sûr. Enfin, chez les jeunes avec Macron, la précarité étudiante, c'est aussi un sujet phare et dont, enfin, on a énormément de formations à ce sujet-là. Quand on va aussi à la rencontre des jeunes, c'est aussi pour discuter de ça. Donc, alors, pour les étudiants en université, ça va relever aussi du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.
Mais... Dont on dit que le budget va être contraint également.
Oui, bien sûr. Mais non, je pense que les budgets, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, il faut voir aussi où est-ce que ce sera les réductions, dans quel cadre. Mais je pense que non, aujourd'hui, il ne faut pas toucher à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, parce que déjà, c'est un peu le socle, on va dire, de notre économie, parce que c'est les jeunes qui vont arriver aussi sur le marché du travail, et on le sait, et c'est ce qu'on défend aussi chez les jeunes avec Macron, c'est l'économie par le travail, hein. Donc on arrivera à financer tout ce qui en va suivre, la santé, la transition écologique, etc., par le travail aussi, donc voilà. Donc non, je pense qu'il faut voir où seront faites les réductions, et puis voilà, comment je regarderai ça d'un peu plus près très prochainement.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes ? Ils sont inquiets aujourd'hui pour leur avenir, pour la suite, pour évidemment rentrer dans la vie active. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les croisez sur le terrain ?
Déjà de rentrer dans la vie active, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut faire pas mal d'études aussi pour pouvoir avoir un bon poste, mais aussi il faut avoir de l'expérience, donc c'est compliqué de trouver le juste milieu. Mais par exemple, avec Emmanuel Macron, on a quand même prôné l'apprentissage, et ça, je pense qu'il faut surtout pas y revenir, parce que l'apprentissage, aider les entreprises à financer les apprentis ou l'alternance, c'est super important, hein, parce que je pense que quand on fait une alternance, et moi je suis totalement pour l'enseignement par l'alternance, c'est-à-dire que on a et l'expérience du professionnel et l'expérience universitaire, et donc du coup je pense que tout ce qui est alternance, apprentissage, etc., faut pas revenir dessus, puisque Emmanuel Macron a apporté des choses qui sont essentielles, et faut pas revenir dessus, parce que l'apprentissage, c'est un peu le cœur, on va dire, Enfin, on entre dans la vie active grâce à l'apprentissage très bien et ça se passe très bien et donc il ne faut pas revenir dessus, ça.
Il ne faut pas oublier non plus le long de la route ceux et celles qui sont déscolarisés pour plein de raisons. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels de l'éducation demandent qu'il y ait un grand plan autour justement de ceux qui sont un petit peu en marge et qui peuvent tomber d'ailleurs dans la délinquance. Hein. On le voit avec les récents faits divers et d'actualité ces derniers temps. Est-ce que là aussi, malgré les contraintes budgétaires, il faut mettre des moyens pour aider les plus précaires en termes d'enseignement, en termes d'éducation?
Oui, bien sûr, il faut les aider. Mais c'est pour ça que les économies doivent se faire en douceur. Pour moi, il ne faut pas, anesthésier, entre guillemets, le pays en se disant il faut faire des coupes budgétaires et plus du tout investir sur l'avenir, surtout l'avenir des jeunes du coup, qui sont déscolarisés, qui sont en marge, on va dire, du système scolaire. Mais bien sûr, il faut les aider. Et je pense que là aussi... France Travail, par exemple, peut jouer son rôle dans la formation et l'accompagnement des jeunes déscolarisés. Donc oui, il y a beaucoup à faire. Il y a aussi une économie, des financements à apporter dedans. Donc c'est pour ça que, voilà, des économies, oui, mais avec modération.
Voilà, mais là encore, trouver le moyen de continuer à faire fonctionner les différents services, et l'éducation est un des piliers, mais tout en maîtrisant la dépense publique. Là, aujourd'hui, on voit ces économies qui sont demandées par le nouveau gouvernement. Il y a eu une alerte, en fait, il y a eu trois alertes. On a eu les élections européennes et les deux tours des législatives. Les Français ont lancé un message, ont adressé un message au président de la République en disant voilà, on veut changer les choses. Est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau gouvernement a envie de changer les choses ou risque de parer au plus pressé, alors en termes de budget, mais aussi plus largement en termes politiques?
Je pense qu'en arrivant, Michel Barnier avait une volonté quand même de changer les choses. Bon, en effet, de relever l'économie, ça on l'a compris. Mais j'espère, et accompagné de différents ministres du centre, en effet, et la droite républicaine, je pense que quand même il y a des choses qui vont être faites. C'est vrai que c'est un temps assez court, 2027 va arriver assez vite, mais on attend de voir. De toute façon, je peux pas attester aujourd'hui que des choses seront faites et pour changer, mais en deux ans c'est sûr qu'on va pas changer la face de la France non plus, mais l'idée c'est vraiment de continuer ce qui a été fait par Emmanuel Macron et l'ancien gouvernement, et puis pourquoi pas faire des économies, en effet, parce que le pays en a besoin sur le chemin, on va dire.
On a un gouvernement qui penche quand même plutôt au centre et à droite. Il y avait une grande attente de la gauche, on l'a vu avec toute la séquence d'attente. Le président de la République a pris son temps pour nommer un Premier ministre et le Premier ministre a pris son temps pour nommer son gouvernement. Tout ça a donc pris du temps, mais il y avait une grande attente de la gauche qui a été déçue. Vous craignez qu'à terme, par exemple, le nouveau Front populaire décide, alors ça a déjà été le cas il y a deux jours, de lancer une motion de censure. Et si le nouveau Front populaire était rejoint par exemple par le Rassemblement national, il y a le risque que le gouvernement tombe et qu'il faille remettre, le métier sur l'ouvrage. Est-ce que c'est une des craintes que vous avez d'être obligé de repartir, alors à zéro peut-être pas, mais enfin en tout cas, de resubir un choix de nouveau gouvernement et tout ça prendra encore du temps, on l'imagine?
Ça peut être une crainte, mais finalement, ce qui a été fait, c'était ce qui était à faire. On l'a vu, on a vu pour les élections, pendant les élections législatives, faut que la gauche prenne conscience que personne n'a gagné les élections législatives.
Elle revendique la victoire, la gauche.
Bien sûr, bien sûr. Et on l'a vu quand elle a voulu imposer, on va dire, le programme du NFP. C'était le programme du NFP ou rien. Non, personne n'a gagné les élections législatives. Ça, il faut bien qu'ils comprennent. Donc, en effet, peut-être que si le PS, parce qu'il faut le rappeler, hein, le Bloc central avait appelé à tous les partis républicains s'allier ensemble, tout simplement, pour avoir un gouvernement et garder la stabilité de la France, quelque part, un gouvernement lucide et stable. Et on l'a vu, le PS a fait le choix de rester au NFP et donc forcément de s'allier avec LFI. Lucie Castex, on l'a vu, il y a eu des grosses polémiques. C'était Lucie Castex et leur programme ou rien, mais on ne peut pas imposer quelque chose comme ça quand il n'y a pas eu de majorité. Donc c'était quelque chose à discuter. s'allier ensemble et puis voir ce qui pouvait être faisable. Donc,
mais aujourd'hui, il y a le risque de la censure tout de même.
Bien sûr, mais il faut voir si le RN va s'allier avec NFP. Je ne sais pas si le RN voudra participer avec LFI. Voilà, en sachant que Michel Barnier a quand même, à mon grand désespoir, montré une forme d'alliance avec le RN parfois.
On dit justement que Michel Barnier est un peu tenu, si vous me permettez le terme, je mets des guillemets, par le RN, qui peut faire un peu la pluie et le beau temps en termes de stabilité et peut-être en termes de motion de censure.
Oui, bah bien sûr, le RN a forcément, si le RN peut jouer sur la motion de censure, c'est évident, mais à voir après si Michel Barnier revendique ça, s'il se passe quelque chose. Mais après, il l'a dit, hein, très bien, il n'y a pas eu d'alliance avec Marine Le Pen, il n'y a pas eu d'appel, etc. Donc j'espère fortement que... Enfin, je lui fais confiance sur ça et j'espère fortement que c'est véridique. Mmh. Voilà.
On parle beaucoup de compromis aujourd'hui, de gouvernement de compromis, de pouvoir avoir des coalitions comme ça se fait dans d'autres pays d'Europe, chez nos voisins allemands par exemple, ou encore italiens ou espagnols, où on gouverne beaucoup en discutant beaucoup. Est-ce que là aussi il va falloir un peu dépoussiérer la façon de faire de la politique en France et peut-être aller justement au compromis, à la discussion, à la coalition, pourquoi pas, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui ou alors c'est pas dans les mentalités.
Ah non, tout à fait. Mais quand il y a eu les élections législatives, on a bien appelé, nous, les partis républicains, à discuter, à échanger pour avoir une certaine cohérence. Mais on le voit aujourd'hui, hein, les extrêmes, et particulièrement l'extrême gauche, a des comportements qui ne sont pas du tout respectueux à l'Assemblée nationale. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement discuter.
Voilà. Selon vous, il n'y a pas de discussion possible avec la gauche, enfin, en tout cas, avec les filles?
Avec LFI, c'est compliqué. Après, il y en a toujours qui sortent du lot, en effet, et les discussions sont toujours possibles, mais c'est compliqué. Enfin, quand on regarde l'Assemblée nationale et qu'on voit leur comportement, enfin voilà, il y a un moment donné, la discussion, elle prône sur... on ne peut pas s'agiter et comme ça... voilà, chacun a la parole, hein. De toute façon, on l'a bien vu, hein. Chacun peut s'exprimer sur divers sujets, et on attend des LFI qu'ils prennent aussi ce temps de parole et qu'ils en fassent bon usage, pas comme ça se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à nos voisins européens sur les discussions, sur les alliances, sur la coalition, voilà. Donc on espère que chacun se raisonnera et puis on pourra avancer, en fait, parce que 2 ans, encore une fois, c'est très court. Donc si chacun n'y met pas du sien pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger et trouver des solutions ensemble, ça ne fonctionnera pas et ce sera en partie de la faute de certains qui... voilà.
Qui bordélise, c'est un petit peu le terme.
Tout à fait, oui.
Qui a été souvent employé. On a aujourd'hui deux échéances, l'échéance présidentielle en 2027, ça va arriver très vite, vous le soulignez à l'instant. Et puis, il y a aussi les élections municipales qui vont arriver très vite, en 2026. Donc, voilà, on est déjà dans une phase préélectorale, on peut le voir comme ça. Avec des maires, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des collectivités locales, mais des maires qui jettent l'éponge, qui n'ont plus envie d'y aller. Ça devient difficile de trouver un maire qui veut ou une maire qui veut prendre en charge une commune. Est-ce que c'est inquiétant pour la démocratie, ce fait ?
Bien sûr, c'est inquiétant. Et bah, ça fait tout à fait la transition, je pense, avec ce que vous avez dit avant. C'est-à-dire que quand on a des comportements des parlementaires, des élus, etc., qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas respectueux, forcément, les élus locaux n'ont pas forcément envie de s'engager, qui se disent, si c'est ça la politique, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager pour subir ça ? Alors, je respecte totalement aussi le fait qu'ils n'aient pas forcément envie de s'engager dans un paysage politique comme ça, ou en tout cas dans une tension politique. Mais j'ai envie de dire, dans les communes, j'espère que certains vont vouloir s'engager aussi pour faire avancer leur ville, être aux côtés des habitants, etc. Et je pense qu'il y en a encore, il y en a qui forcément se désengagent, mais je pense qu'il y en a encore qui ont cette fibre locale. Et c'est là où je pense que la territorialisation et tout ce qui est politique des régions, des départements, des villes, voilà, va prendre tout son sens dans les prochains mois, parce qu'on va le voir, tout le monde va commencer à rentrer en campagne, on va dire, municipale. Et donc, je pense que voilà, on peut se détacher de cette politique nationale qui peut-être peut faire parfois peur et décourager, et tout, enfin, en se concentrant plus sur l'enjeu local. Et voilà. Donc, j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui voudront s'engager, et surtout des jeunes, hein, parce que.
Alors, j'allais y venir justement. Il y a quelques maires qui sont jeunes, voire même très jeunes, un peu partout en France et ici en Bretagne. Vous avez un message pour les jeunes aujourd'hui, un message politique en disant. Voilà, il faut aller sur le terrain, il faut s'engager, quelle que soit finalement la sensibilité politique, mais il faut aller sur le terrain.
Ah oui, tout à fait. Il faut aller sur le terrain. Et puis, je pense que l'engagement local, notamment municipal, est vraiment déjà un très bel engagement, parce qu'on s'engage aux côtés de sa commune. Et enfin, surtout dans les petites communes, l'histoire de politique n'y est pas trop. C'est plus pour faire avancer sa ville. Et je trouve que c'est un très bel engagement. Et donc, du coup, j'appelle tous les jeunes à chaque fois. Et d'ailleurs, les jeunes avec Macron le font très bien et nous préparent très bien. Si on veut s'engager dans notre commune, ils sont vraiment à côté de nous pour nous épauler et nous accompagner. Et ça, je trouve très bien, et félicitations à eux. Et autrement, les jeunes, on leur dit toujours s'engager. En fait, c'est vous avez un pays, vous voulez faire avancer les choses, ben, engagez-vous, parce que c'est nous l'avenir, en plus, du pays. Et puis, voilà. Je pousse tout le monde à s'engager de toute façon à chaque fois qu'on discute. Si quelqu'un est intéressé par l'engagement, on lui dit il faut foncer, peu importe que ce soit pour nous d'ailleurs ou pas. Je pousse tout le monde à s'engager.
Voilà, faire avancer les choses, se préparer à une vie politique future. Hein, vous le disiez, hein, vous êtes la future génération. Alors, sans faire de jeunisme, on voit quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se préoccupent des grands sujets. Alors, évidemment, l'environnement, et on le voit là encore avec l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières heures, l'environnement, mais aussi les grands sujets de société, la fin de vie, par exemple, les engagements aussi pour la tolérance. Est-ce que souvent, d'un engagement politique pour un grand sujet, d'un engagement, j'allais dire, militant pour un grand sujet, ben on en vient à la politique. Est-ce que c'est souvent le cheminement ?
Ça arrive, oui. En effet, il y a beaucoup de jeunes qui, notamment, on l'a vu aussi avec les marches pour le climat, etc. Ça a poussé beaucoup de jeunes, je pense, cet engagement vers l'environnement durable, etc., à s'engager, que ce soit d'ailleurs un engagement syndical, politique, etc. Donc je pense que oui, les grandes causes peuvent pousser les jeunes à s'engager. On l'a vu aussi avec les législatives. Hein. Nous, on a eu vraiment un pic d'adhésion pendant les législatives, des jeunes qui, je pense, ont eu peur que la politique tombe entre les mains de l'extrême droite. Donc je pense qu'il y a plusieurs faits qui peuvent pousser les jeunes à s'engager, à se dire aujourd'hui j'ai besoin de donner ma voix, j'ai besoin de pouvoir aller écouter et discuter avec des gens, parce que je sais qu'il y a un vrai enjeu derrière. Donc, en effet, oui, des grands sujets sociétaux peuvent permettre aux jeunes de sauter le pas, de s'engager.
Faut bousculer un petit peu, allez, je vais mettre des guillemets, mais la vieille politique, faut la bousculer un petit peu, faut changer les choses.
Bah, en tout cas, il faut travailler ensemble. Je pense que nous, on le fait très bien chez les jeunes avec Macron. On travaille avec Renaissance, avec les partis du bloc central. Et je pense que la jeune génération arrive après et a plus d'années, on va dire, d'engagement politique devant elle. Donc je pense que on doit apprendre de la vieille génération, des plus anciens, et on doit aussi apporter nos idées. Et c'est, en fait, je pense que c'est vraiment en travaillant en intergénérationnel qu'on peut aussi former et puis débattre et puis avoir des idées nouvelles et avec l'expérience, on va dire, plus ancienne.
Alors, il y a aussi des grands sujets comme, par exemple, les territoires. Aujourd'hui, vous faisiez référence tout à l'heure aux collectivités territoriales. On a les jeunes des campagnes, on a les jeunes de la ville, ça fait un petit peu Fab de La Fontaine. Mais souvent, on a l'impression de deux mondes qui se côtoient, qui cohabitent, mais qui ne se comprennent pas toujours. Est-ce que là, aujourd'hui, il faut faire tomber aussi des murs entre la ville et la campagne ? Est-ce qu'il faut finalement aussi apporter un grand élan de décentralisation ? qui a déjà été initié par vos grands devanciers, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? On parle d'autonomie aujourd'hui en Bretagne. Est-ce qu'il faut imaginer la suite avec les territoires?
Bien sûr. Quand on le dit forcément d'aller sur le terrain, quand on parle politique, c'est bien dans ce sens-là et dans cette dynamique-là de la territorialisation, c'est le plus important. Déjà, quand on s'engage en politique, je pense que c'est primordial de connaître son territoire avant de connaître, enfin, en parallèle, on va dire plus, connaître la politique nationale et connaître la politique de son territoire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Sinon, on peut pas comprendre les attentes des habitants, les enjeux du territoire si on se penche pas un petit peu dessus. Donc, la politique nationale ne fait pas tout.
Reproche ça un petit peu au président Macron de ne pas avoir été élu de terrain, finalement, d'être passé de Bercy à président de la République.
Mais peut-être qu'il a eu ce parcours-là, mais à côté de ça, à Renaissance, par exemple, le parti ou les jeunes avec Macron... encore plus, je pense, mettre vraiment un point d'honneur à aller dans les territoires. Enfin, on le voit, nous, on nous pousse toujours à faire plus de territorialisation, plus de terrain. Et ils ont raison, parce que je pense que c'est la clé et des politiques locales et des politiques nationales aussi, parce qu'on ne peut pas faire une politique nationale sans comprendre les enjeux territoriaux. Ça, je ne l'apprendrai à personne. Donc non, je pense qu'en effet, il faut aller vers plus de territorialisation, de décentralisation et comprendre les enjeux. Mais on le voit, hein, l'ancien gouvernement était toujours sur le terrain, les ministres, etc., se déplaçaient énormément. Donc je pense qu'ils avaient bien compris la dynamique territoriale et on le comprend très bien chez les jeunes avec Macron aussi. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, parce qu'en plus avec les échéances municipales, évidemment, on ne peut qu'aller sur le terrain, aller dans les milieux plus ruraux, aller dans les villes. Enfin voilà, on va couvrir un petit peu tout le terrain national.
Alors on a l'impression aujourd'hui qu'on tourne une page aussi au niveau des Français qui, je le disais tout à l'heure, qui ont alerté, qui ont voté, qui se sont tournés pour beaucoup vers le Rassemblement National, un peu plus de 11 millions je crois, de votes pour le Rassemblement National. J'imagine que ça vous interpelle, que ça vous interroge. Il y a des jeunes aussi au Rassemblement National. Vous arrivez à parler avec eux, à leur dire voilà, on n'est pas d'accord mais on peut cheminer?
Encore une fois, on va dire qu'il y a du cas par cas, évidemment, parce que tout le monde ne discute pas pareil, il n'a pas la même ouverture d'esprit. C'est compliqué la discussion, on va dire que c'est compliqué parce que soit chez les jeunes, soit chez les moins jeunes, il y a eu, je pense, comme on l'a dit, un ras-le-bol, on va dire, de la politique. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir les écouter parce que, avant tout, quand il y a de la colère, et voilà, c'est l'écoute qui prône. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment les écouter et après leur apporter des solutions, parce que s'ils sont tournés vers l'extrême et particulièrement l'extrême droite, c'est que je pense qu'il y a une incompréhension de ce qui s'est passé. Ces dernières années dans le paysage politique, mais il y a aussi des attentes de réponse que le Rassemblement National, il faut pas se cacher, n'apportera pas.
Il y a une attente sociale finalement, on entend beaucoup cette attente sociale sur le terrain. Et il ne faut plus décevoir aujourd'hui, la politique des promesses c'est fini, il faut agir.
Oui, mais est-ce que quand on regarde le programme du Rassemblement National, si c'est pas une politique des promesses, je ne sais pas ce que c'est. Donc je pense qu'il faut répondre. Déjà, donc comme on l'a dit, il faut écouter, parce que c'est faut écouter leurs attentes sociales en effet, et il faut leur apporter des réponses, parce que des fois aussi ils n'ont pas connaissance de tout ce qui peut leur être offert en fait en offre sociale, voilà. Donc je pense que voilà, il faut écouter, discuter avec eux. Alors il y a des discussions qui seront pas possibles, hein, on le sait très bien. Il y a des gens ou avec qui on pourra pas discuter. Et je pense que
il y a des sujets aussi peut-être qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui.
Je pense que c'est je pense que c'est plus des personnes qui n'ont pas forcément envie de nous écouter, avec qui on pourra pas discuter, plus que des sujets, parce que quelqu'un qui est ouvert, peu importe son vote et peu importe son avis politique, je pense que quelqu'un qui est ouvert nous écoutera. Sera pas forcément d'accord avec nous, mais après c'est le jeu, hein, de la politique, on a des débats, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse du pays, parce que je pense que plus on débat et plus on a des vis-à-vis divergents, plus ça nourrit aussi le monde politique. Mais voilà, il y a des gens avec qui ça se passera très bien et on pourra discuter. Mais c'est vrai qu'avec une grande majorité du Rassemblement National, c'est compliqué de discuter, c'est compliqué de les écouter, c'est compliqué pour eux de nous écouter. Donc voilà. Donc après, nous, chez le Génag Macron, quand on va sur le terrain, on discute avec ceux qui sont ouverts, avec ceux avec qui on peut avoir, débattre, etc. Peu importe qu'on ait le même avis ou pas. Et puis c'est toujours très enrichissant hein, d'aller sur le terrain. De toute façon, je pousserai toujours tout le monde à aller sur le terrain parce que c'est super enrichissant d'avoir des échanges avec, avec les habitants.
La politique vue par l'œil de la nouvelle génération. Nous étions ce matin avec Maïna Jérôme, coordinatrice régionale pour la Bretagne des jeunes, avec Macron en direct avec nous pour balayer l'actualité politique et un peu plus même. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Très belle journée.
Merci beaucoup à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.